Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour David Mignot.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette année encore, le podcast 2030 Glorieuse il est soutenu par la NEF, une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. David, tu es le cofondateur et le président de Yes Yes, une entreprise qui propose des smartphones et des consoles reconditionnées 100% français. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous discuterons de la place de la technologie dans notre société, dans nos vies, de durabilité et de réindustrialisation en 2030 glorieuse. Pour commencer cet échange, David, je te pose la même question que je pose à tous mes invités, c'est-à-dire, ça y est, on a une soirée ou un événement, tu rencontres de nouvelles personnes et arrive cette question fatidique, tu sais, qu'on redoute presque au moment de l'entendre. Toi, David, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là?
Eh bien, écoute, dans ma vie, je fais des produits reconditionnés. Alors ça, c'est très technique. On verra peut-être tout à l'heure plus la dimension personnelle et du cheminement pour en arriver là. Mais concrètement, j'ai créé une société, j'ai cofondé une société il y a 4 ans qui s'appelle Yes Yes, pour Yes J'achète, Yes Je Vends. Et donc, nous rachetons des produits d'occasion pour les contrôler, les réparer, les reconditionner et les revendre avec une deuxième vie, une troisième vie, avec une garantie de 2 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de prolonger la durée de vie des produits électroniques. Là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais l'impact environnemental des smartphones, des produits électroniques en général et des smartphones en particulier, est colossal, notamment lié à la production. Donc il faut à tout prix rallonger la durée de vie de ces produits et leur permettre de prolonger leur vie dans de bonnes conditions. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 4 ans.
Oui, ben justement, alors attaquons directement, comme tu le dis, cette partie un peu de cheminement personnel, puisque toi finalement, tu viens de l'industrie mobile, tu as travaillé à différents postes et tu as grimpé dans la hiérarchie d'une entreprise qui fabrique et vend des smartphones dans le monde entier. Et un jour, tu t'es dit, ça suffit. Pourquoi?
Alors effectivement, moi j'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe japonais qui s'appelle Sony et plus particulièrement dans la division mobile. J'ai fait 17 ans là-bas et j'ai fait 14 ans dans la téléphonie mobile. Donc c'est un marché que je connais bien et c'est un marché où j'ai vendu des produits neufs par définition avec... effectivement, au bout d'un certain temps, une certaine prise en compte, une certaine prise de conscience, en tout cas une question qui était, mais au final, quel est l'intérêt de se dire tous les 6 mois, regardez, il y a un nouveau smartphone qui est génial, qui est révolutionnaire, qui va changer vos vies, alors qu'on disait la même chose 6 mois avant. Et qu'en réalité, il n'y avait pas tellement d'évolution, on était dans une démarche très commerciale, évidemment, hein, c'est l'objectif. Mais il arrive un âge où... où tu n'es plus aussi, comment dirais-je, où tu poses un peu plus de questions et tu te demandes quel est le sens de tout ça. Donc moi, ça correspondait à une période où, passé la quarantaine, tu commences à te poser des questions, évidemment. Et j'ai décidé, de passer à autre chose et donc de quitter Sony, mais sans pour autant avoir de projet bien défini de ce que je voulais faire par la suite. Et en l'occurrence, je ne voulais pas créer mon entreprise, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis, les hasards de la vie ont fait que j'ai recroisé un ancien collègue, Christophe Perrin, qui est devenu mon associé, qui était directeur commercial à l'époque chez Sony, et qui avait créé, sous une franchise, des magasins de réparation de mobiles. Et c'est là qu'il a commencé à me dire, mais moi, j'ai beaucoup de produits à réparer dans mes magasins, des produits qui ont été reconditionnés, mais pas dans de bonnes conditions, et c'est pas bien fait. Et il y aurait véritablement quelque chose à faire sur ce marché, mais en faisant de la qualité, en réassurant les clients qui veulent aller dans cette démarche-là, et en donnant toutes ces chances à ce marché qui est important. Nous, on connaissait bien le marché du neuf, encore une fois, et en lui donnant toutes ces chances de se développer. Et c'est comme ça que on s'est lancé dans l'aventure YesYes. Peut-être par rédemption, je ne sais pas, peut-être qu'on avait trop fait de mal pendant des années, même si tu n'es pas forcément toujours conscient.
Donc du coup, tu t'engages à une carrière qui va durer encore 250 ans, le temps de réparer les millions de téléphones voilà. Sony que tu as participé à vendre, c'est ça ?
Peut-être le temps qu'il faudra pour réparer tout ça, effectivement. Mais
non, justement, on en reparlera ça, David. Le reconditionné va s'imposer comme la norme en 2030 glorieuse. J'ai envie de t'entendre à ce sujet. Mais quand même, tu parles d'une chose là qui est fondamentale. Tu parles de ce rythme effréné, effectivement, de cette course folle où on propose un nouveau smartphone non plus tous les ans, mais tous les 6 mois, avec effectivement cette présentation d'une nouveauté qui serait censée renverser à nouveau cette table technologique. C'est un gâchis extraordinaire, hein, cette accélération. Pour donner quelques chiffres, hein, quand même, et ça, c'est des chiffres qui ont été proposés par Novetic, qui mettait en avant une nouvelle étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sortie en février 2022 et qui montre qu'en gros, pour vous donner seulement quelques chiffres, que le numérique, ça émet quand même autant de CO2 que l'avion en France, hein, c'est 2,5%, qu'un an de consommation de biens et de services numériques, ça représente environ 10% de la consommation d'électricité française. Donc, c'est quand même l'équivalent de la consommation annuelle de 8 millions de foyers français. Et toi, tu le disais, hein, la production de ces smartphones, c'est l'essentiel de l'impact écologique de la technologie, puisque l'utilisation, c'est seulement 21% de l'empreinte carbone, notamment en raison de la consommation d'électricité. Donc, c'est quelque chose qui est assez fou, dit comme ça, là, en listant ces quelques chiffres, et qui, malheureusement, est sur une croissance assez exponentielle, puisque si on continue en l'état, que rien ne change d'ici 2040, l'empreinte du numérique, elle va augmenter de 60%, et ça équivaudra presque à 7% de l'empreinte carbone des Français. Donc, là, c'est pas ponctuel, c'est pas un épiphénomène auquel vous vous attaquez. Il y a un vrai enjeu de développement de notre société et de la réduction de notre empreinte. Hein.
Oui, tout à fait, d'autant que bon, tu as précisé tous ces chiffres hein, qui viennent de l'ADEME, qui sont très récents. L'impact, il est donc 80% lié à la production, tu l'as dit, notamment parce qu'il y a de l'extraction de minerais. Il y a une cinquantaine de métaux dans un smartphone. Tu rajoutes à ça tous les déchets, l'émission de CO2, et on a un bilan qui est catastrophique et encore une fois, qui n'est pas justifié. Il y a 15 ans, on pouvait encore dire qu'il y avait une évolution, des évolutions technologiques, des révolutions technologiques qui faisaient que tu pouvais voir tous les ans des vraies avancées quand tu changeais ton smartphone ou d'autres produits électroniques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, entre un iPhone 13 et un iPhone 12, il n'y a rien de différence. Et un iPhone 11, c'est pareil. Donc, ce qui pouvait être justifié, entre guillemets, à l'époque, hein, parce que tu avais des appareils photo révolutionnaires, tu avais des processeurs qui étaient vraiment meilleurs, toi qui changeais vraiment ta relation au téléphone, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et il faut bien prendre conscience de ça parce qu'il se vend encore aujourd'hui plus d'un milliard deux, un milliard trois de smartphones dans le monde. En France, c'est 16 millions de smartphones neufs qui sont vendus chaque année. Alors, c'est en baisse, mais il n'y a que 2,6 millions de smartphones reconditionnés par an. Alors, je crois que c'est passé à 3 millions l'année dernière, un peu plus de 3 millions l'année dernière, mais c'est encore trop peu. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, d'une part. Que toutes les idées reçues autour de l'obsolescence programmée, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, sont pour la plupart pas forcément justifiées. Et que un smartphone, ça a une durée de vie entre 5 et 6 ans, et il suffit juste de changer une batterie ou de faire des réparations nécessaires, et que la condition, c'est que ça soit fait dans de bonnes conditions, justement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du reconditionné, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Donc nous, notre combat tous les jours, c'est de donner confiance dans un produit reconditionné, en le faisant dans de bonnes conditions, en plus avec un côté vertueux à la fois local et social, et de faire en sorte que si tu achètes un produit reconditionné, tu te dises, bah oui, en réalité, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ça fonctionne très bien, je suis satisfait, et c'est, ça devrait être la norme. Donc ça, c'est le combat qu'on mène au quotidien.
Tu donnes ce chiffre plus d'un milliard de téléphones vendus chaque année. C'est ce qui a fait que vous n'avez pas eu envie de vous lancer dans la production d'un téléphone qui soit, lui, 100% réparable ou plus éthique, comme ce qu'est en train d'essayer de faire Fairphone, par exemple ?
Alors ça, c'est très bien. Et c'est une démarche qui est tout à fait respectable de lancer ce type de téléphone, Fairphone. La problématique, parce qu'on a analysé aussi ce marché, c'est que ton impact... Il est pas uniquement dans la démarche, il est dans l'adhésion des clients à cette démarche-là. Et aujourd'hui, malgré tout, un smartphone, c'est un objet de représentation sociale. Et quoi qu'il en soit, même si un Fairphone, c'est beaucoup mieux d'un point de vue environnemental, il n'a pas cette dimension sociale qu'on veut lui donner. Et malheureusement, aujourd'hui, un Fairphone ne pourra pas remplacer un iPhone dans sa représentation. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne parle pas dans ce qu'il fait concrètement, hein, encore une fois. Et donc, l'enjeu, pour nous, ça a toujours été de dire, si on veut avoir un impact, il faut que ça soit un impact massif. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui y adhèrent. Et donc, cet impact massif, pour nous, il est plus évident sur un smartphone reconditionné qui va se vendre beaucoup que sur un smartphone qui a été conçu de façon vertueuse dès le départ, et ce qui, encore une fois, devrait être la règle. Moi, je rêverais qu'il ne se vende que des Fairphone, ça serait évidemment ce qu'il y a de mieux, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc nous, on agit quitte à ce que les gens achètent des produits de marque, autant qu'ils le fassent avec du reconditionné.
Tu parles de quantitatif, hein, avec un impact de masse. Pour autant, vous abandonnez pas le qualitatif, puisque là où on voit de plus en plus d'offres de smartphones reconditionnés, on a un peu du mal parfois à tracer à la fois d'où vient ou où a été réalisé le reconditionnement, mais aussi avec quelle exigence. Alors que vous, justement, vous communiquez beaucoup sur le fait que le reconditionnement, il est 100% français, avec une exigence de contrôle assez poussée. Est-ce que tu peux me raconter jusqu'à quel point vous êtes exigeant ? Et puis même, peut-être, je serais très intéressé que dans un second temps, tu me dises quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez encore vous améliorer quant à ce reconditionnement, justement.
Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer de le faire synthétique. La première chose, c'est que, aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a pas de réglementation dans le reconditionné. C'est-à-dire que toi, Julien, tu peux décider de racheter des téléphones à tes potes, à des connaissances ou qui que ce soit. Chez toi, tu les testes, tu fais allô, allô, 1, 2, ça fonctionne. T'achètes un chargeur sur Wish à 1€, tu mets ça dans une boîte blanche et tu es reconditionneur. Tu étais reconditionneur. Ce qui en soi a certaines limites, puisque évidemment, dans les process, tu n'as pas respecté des choses de qualité. Il y a 4 points importants dans un reconditionnement. La première chose, c'est le diagnostic qu'on va faire. Et évidemment, toi tout seul, chez toi, à part faire Allo Allo 1-2, c'est pas suffisant. Donc nous, on travaille avec des logiciels professionnels pour analyser l'intégralité des fonctions du téléphone et notamment la santé de la batterie. Donc première chose, le diagnostic. La deuxième chose, c'est la qualité des pièces détachées. Là aussi, c'est comme tout, tu as des excellentes pièces détachées, tu as des moins bonnes, tu as des mauvaises, mais il n'y a pas de réglementation. Il y a la façon de réparer les téléphones. Sans rentrer dans le détail, quand tu changes un écran, par exemple, il faut rajouter ce qu'on appelle un joint d'étanchéité pour que le produit reste étanche. Mais ça, si tu ne le fais pas, personne ne le verra. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et évidemment, si ton téléphone tombe dans l'eau, il est mort. Et puis le dernier point, ça concerne les accessoires. Puisque quand tu as un produit reconditionné, tu as un chargeur et un câble qui sont neufs. Là, je te le disais, la plupart des reconditionnés sont souvent pas la norme CE et encore moins certifiés de Apple quand c'est un iPhone. Nous, on est les seuls à avoir développé nos propres accessoires qui sont éco-conçus, donc 100% recyclables, et qui en plus ont la certification Apple, ont payé une licence Apple pour garantir que la qualité de la charge est optimum, et que tu ne vas pas endommager ton téléphone, et encore moins que ton chargeur va prendre feu, ce qui est aussi quelque chose qui peut arriver. Donc, la première chose, c'est que sur toutes ces étapes que je viens de te mentionner, le diagnostic, la réparation, les pièces détachées et les accessoires, on a un niveau d'exigence, d'excellence qui est extrêmement élevé. Et c'est ce qui nous permet de garantir 2 ans, d'offrir 2 ans de garantie sur tous nos produits. Ça, pour le faire, on le fait en interne, c'est chez nous, ce sont nos propres techniciens. Et donc, on est garant de cette qualité. Donc, la première chose, c'est qu'on a mis en place nos propres critères de qualité qu'on améliore en permanence de façon à ce que les clients soient rassurés. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que sur ce marché qui intéresse les gens, parce que c'est économiquement intéressant et écologiquement, évidemment, intéressant également, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de crainte, c'est un marché assez opaque et tu l'as dit, on ne sait pas forcément où c'est fait, comment ça a été fait. Et pour ça, nous, on a voulu aller au stade ultime de la réassurance qui est l'ouverture d'un atelier boutique. On vient d'ouvrir à Caen notre premier atelier boutique qui est à la fois le lieu pour rencontrer des vendeurs et assurer cette proximité, hein, rassurer sur d'où viennent les produits, comment ça a été fait et voir ces produits. Et comme son nom l'indique, l'atelier est présent au sein de la boutique, enfin à côté de la boutique, il y a une verrière où il y a nos techniciens qui sont là. Et donc, en toute transparence, on voit nos techniciens en train de réparer, reconditionner nos produits, sachant que c'est pas du marketing pour amuser la galerie, hein, c'est 100% de nos produits reconditionnés sont issus de cet atelier. Donc c'est là l'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour faire du reconditionné de qualité. Et puis après, on rajoute à ça la dimension environnementale. Je te l'ai dit, on a développé nos propres accessoires éco-conçus, on a nos propres emballages éco-conçus. Notre sourcing, notre approvisionnement, on le veut en France, pour reconditionner en France et revendre en France. Une notion de circuit court qui est assez évidente, mais qui est souvent plutôt étrangère au reconditionné. Et puis enfin, une dimension sociale, puisqu'on fait beaucoup de réinsertion, notamment avec les techniciens qui sont dans nos ateliers. Donc c'est toute cette démarche-là qui nous anime au quotidien.
Et donc, tu ne m'as pas dit quels sont les sujets sur lesquels vous devez plancher encore, les axes d'amélioration que vous avez à mettre en place là, dans les prochains mois, dans les prochaines années ?
Alors, l'axe principal pour nous, c'est toute la partie approvisionnement pour qu'elle soit à 100% en France. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On achète des produits en Europe auprès de grossistes. Donc là, on met en place toutes les actions possibles pour pouvoir... acheter auprès des distributeurs et des opérateurs en France. Et puis évidemment, directement dans notre boutique et sur notre site directement en France. Pour le reste, on a déjà poussé les curseurs assez loin, hein, sur la qualité des accessoires, sur la qualité des pièces détachées, sur la qualité des réparations. Donc ensuite, c'est des choses qu'on analyse tous les jours sur les retours qu'on peut avoir sur des produits et comment on peut faire en sorte qu'on améliore encore nos process de reconditionnement de façon à ce qu'on ait des taux de retour qui soient les plus faibles possibles.
Non, mais justement, parlons de ces process de reconditionnement avec les humains qu'il y a derrière au niveau de l'emploi. Il y a un vrai intérêt à pousser le reconditionnement en France, non ? Enfin, j'imagine des centaines, des milliers, à terme peut-être des dizaines de milliers d'emplois. Est-ce que c'est aussi, du coup, pour vous, de la formation que vous avez intégrée à ISIS ? Est-ce que, en fait, il y a des personnes qui arrivent directement avec les bagages techniques pour être reconditionneur ? Et derrière, est-ce qu'il y a différentes casquettes, différentes responsabilités qu'on assume en tant que reconditionneur, ou est-ce qu'en fait une seule et même personne peut s'occuper de tout le processus de A à Z ?
Alors c'est quelque chose d'important pour nous, parce que je te l'ai dit, on est aussi dans une démarche de réinsertion. On travaille avec la mission locale de Caen, on travaille avec le Pôle emploi, et L'avantage, c'est que être technicien réparateur du reconditionné est quelque chose qu'on peut apprendre. Et donc, nous, on a 60% de nos jeunes, des techniciens qui ont moins de 25 ans et qui sont en réinsertion et qui n'ont pas de bagage technique et qui sont arrivés sans avoir jamais démonté un téléphone, ou alors il l'avait peut-être démonté mais il n'avait pas su le remonter, ce qui peut arriver parfois. Mais en l'occurrence, on les forme. On forme ces jeunes à tout ce qui est réparation d'un téléphone, changement d'une batterie, changement d'un écran, et réparer de façon, enfin, en règle générale. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une formation très spécifique, très poussée, très pointue pour faire ça, et ça nous permet de pouvoir recruter assez facilement, hein, pour l'instant, auprès de jeunes qui aimeraient se former à ça. L'idée pour nous, et tu le soulignais, c'est que nous, on est, tu sais, il y a un mot à la mode quand tu es une start-up, pour les investisseurs, c'est la scalabilité, tu sais, il faut faire plus avec moins. Nous, on est anti-scalabilité, plus on vend, plus on embauche, en fait, hein, parce qu'il faut embaucher des techniciens. Mais ça nous va bien, parce que c'est aussi un rôle qu'on doit avoir. Ton site, ton émission s'appelle « Ça commence par moi », c'est aussi ça l'enjeu, c'est que, oui, embaucher un technicien, ça commence par nous qui avons créé une entreprise, et si on peut en faire 10, 20, 500, tant mieux, faisons-le. Donc on est dans cette démarche-là, de nous développer en embauchant du monde, en embauchant des jeunes, en faisant de la réinsertion, et de se donner les moyens de le faire. Donc on a prévu de lancer c'est pas très original, mais une académie SIS qui permettrait de former des jeunes au métier de la réparation et du reconditionnement. Et pour répondre précisément à ta question, on peut tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a nos techniciens font à la fois les phases de test et les phases de réparation, quelles qu'elles soient. Il y a certains domaines un peu plus pointus, comme de la micro-soudure, qui sont des choses un peu spécifiques, mais sinon un technicien peut faire toute la partie de A à Z.
Avec une évolution naturelle qui amène ces techniciens formés sur place à devenir peut-être, j'imagine, responsable d'équipe, responsable d'atelier. D'ailleurs, je devais normalement interviewer votre responsable d'atelier qui n'a pas pu pour des questions d'emploi du temps, mais il y a une évolution aussi, hein, qui permet de rester dans ce secteur pendant quelques années quand même, hein. De s'y épanouir peut-être même, je ne sais pas.
S'y épanouir, il faut leur demander, mais je pense qu'ils ont l'air plutôt, heureux. Nous, ce sont ils sont fidèles, ils sont là depuis quasiment le début de l'aventure, donc ça fonctionne très bien. Et oui, effectivement.
Puisque ISS existe depuis 5 ans, hein, David.
4 ans, on a lancé en janvier 2018. Alors même si la société avait été créée un an plus tôt, parce qu'il y a un an de développement, on va dire. Et l'enjeu pour nous, c'est de nous développer en atelier boutique partout en France. Donc on ne souhaite pas créer une usine, on souhaite garder cette dimension humaine. Un atelier boutique, c'est aujourd'hui une quinzaine de personnes, entre la partie technique, la partie logistique et la partie commerciale. Et comme tu le disais, un technicien, il peut passer responsable de la partie atelier technique, mais il peut aussi, s'il développe des compétences plus commerciales, hein, en l'occurrence, c'est le cas de Gérald dont tu as parlé, qui à la base est technicien, qui est maintenant aujourd'hui patron de l'atelier boutique de Caen, il peut aussi prendre la responsabilité de l'intégralité de l'atelier boutique avec les fonctions logistiques et commerciales. Et puis ensuite, pour des gens qui aimeraient aussi bouger parce qu'ils ont un projet personnel d'aller, je sais pas, dans le sud de la France, dans le nord, l'est, peu importe, le fait d'ouvrir partout en France peut aussi permettre la mobilité pour ceux qui souhaiteraient aller s'installer ailleurs. Alors ça, c'est pas le cas pour l'instant, puisqu'on n'a qu'un seul atelier boutique, mais l'idée pour nous, c'est d'en ouvrir une douzaine dans chacune des régions en France à l'horizon 2025, et donc d'être le premier réseau physique avec un reconditionneur qui a des ateliers boutiques partout en France.
Bon, justement, on va parler des 2030 glorieuses. Hein. Dans quelques minutes, tu me raconteras à quoi ça ressemble une France qui compte plus d'une centaine, allons-y, de boutiques yes, et d'avoir cette prédominance du reconditionné au niveau au moins des petits objets technologiques. Mais avant ça, David, tu es venu avec une lecture, hein, une fenêtre vers ces utopies vivantes que je porte à travers le podcast 2030 Glorieuses, et une fenêtre de littérature. Tu es venu avec quelque chose à nous lire. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça va peut-être paraître surprenant, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à une époque où justement je cherchais ce que je souhaitais faire. C'est un livre qui s'appelle « Demandez et vous recevrez » de Pierre Morency. Alors, Pierre Morency, c'est un physicien, donc ça va peut-être te sembler un petit peu bizarre. Mais l'extrait que je lis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puisque dans cette logique de construire un monde différent, on peut dire ça comme ça, et encore une fois dans cette logique de « ça commence par moi », il y a avant tout une prise de conscience. Ce que vous choisissez de vivre dans votre monde intérieur doit se manifester dans le monde physique. Plus vos pensées seront puissantes, précises et sans bruit de fond, plus leur manifestation physique sera rapide. À la limite, vous pourriez littéralement matérialiser ce que vous voulez par vos simples pensées. Il vous faudrait beaucoup, beaucoup d'énergie et de pouvoir de concentration. Avec la formule d'Albert Einstein, la célèbre E égale MC2, il est universellement accepté que toute matière est énergie concentrée. Une pensée est une onde énergétique, et par conséquent, si cette onde était suffisamment puissante, elle deviendrait matière. C'est une loi de la physique. D'où l'importance de vous observer penser. Ce n'est pas par hasard que la plupart des humains ont tant de problèmes dans la vie. Vous n'avez qu'à observer les pensées qu'ils ruminent continuellement, toujours du négatif. Tout va mal, j'ai des dettes, mes enfants se couchent trop tard, mon patron est un tortionnaire, etc., etc. Cela dit, je ne vous dis pas d'utiliser la simple pensée positive, je vous dis plutôt d'appliquer les principes de physique quantique reconnus. Les ondes énergétiques deviennent matière lorsqu'elles sont suffisamment puissantes ou répétées. La règle fonctionne tout autant pour les pensées positives que pour les négatives. Mieux encore, les effets sont cumulables. Donc ça peut peut-être te paraître surprenant hein, comme lecture, mais moi je fais un parallèle entre ce que je fais aujourd'hui et puis les sujets dont on discute ensemble. C'est qu'on est un certain nombre, et tu en es l'illustration, à vouloir que les choses changent, à vouloir un monde différent, certainement meilleur, mais en tout cas différent, parce que les orientations qui sont prises nous semblent parfois déroutantes. Et que... On peut rêver d'un monde meilleur, mais la meilleure chose, c'est d'en être acteur. Et pour en être acteur, il faut une prise de conscience que son action et donc sa pensée doivent nous projeter vers quelque chose de positif. Ce qu'il explique dans cet extrait-là, c'est que, en fait, c'est le principe de la physique quantique, c'est que la matière est une énergie. Si tu vas au plus profond de l'atome, c'est de l'énergie, en fait. Et que notre pensée est une énergie. Et donc, si tu as des pensées positives, si tu te projettes dans quelque chose de positif, il y a quelque part une réalisation qui peut se faire en tant que matière, une réalisation physique de ça. Et que si on veut penser à un monde de demain, il faut avant tout en être acteur et se penser de façon positive. Donc voilà l'extrait que j'ai choisi, qui relève plus de la physique, quelque chose de rationnel, mais qui rassure sur le fait que notre action et nos pensées peuvent prendre une réalité prochaine.
Eh bien, allons-y. Partons en 2030 glorieuse après cette bulle d'inspiration quantique. Nous y sommes en 2030 glorieuse. C'est un jeu de l'esprit, mais justement pour concentrer cette énergie du positif vers ces sociétés durables et solidaires, puisqu'elles existent au pluriel désormais en 2030 glorieuse, nous avons besoin, nous, dans le présent, d'arriver à lever la tête et à les matérialiser pour ensuite avoir ce cap qui stratégiquement nous permet déjà d'ailleurs de mettre toute cette énergie à aller vers ces imaginaires qu'on développe et qu'on adapte en plus au fur et à mesure des actions, au fur et à mesure des aventures. Personne ne va nous en vouloir hein, si là, le jeu qu'on fait et les 20 minutes qu'on passe en 2030 glorieuse n'aboutiront pas à, avec exactitude à ce que seront les décennies à venir. Et à la fois, j'ai envie qu'on soit vraiment très ambitieux et qu'on soit aussi le plus précis possible pour permettre aux personnes qui nous accompagnent de se rendre compte à quoi ça ressemble, ces 2030 glorieuses. Donc je te pose la première question. Toi là, qui y es en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes par ta fenêtre ?
Écoute, je vois de la sérénité, je vois des gens apaisés, je vois des gens qui vivent en collectivité plus qu'individuellement. Et quand on dit vivre en collectivité, c'est pas vivre tous ensemble comme on pourrait l'imaginer, mais vivre, ils vivent aussi dans l'intérêt de tout le monde. Ce qui était difficile en 2022, à l'époque où on se parlait en 2022, tout à fait, c'est cette dimension-là qu'on a réussi à dépasser. Donc il y a une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience collective environnementale, puisque évidemment nos modes de consommation ont évolué et sont beaucoup plus vertueux. Et puis il y a une prise de conscience sociale, sociétale, où le fait de vivre ensemble est quand même beaucoup plus facile que ce que ça n'a été avant.
Toi, il y a 10 ans, David, tu travaillais au reconditionnement qui n'était pas encore communément admis. Hein. C'était un travail presque autant technique que pédagogique. En 2030 glorieuse, le reconditionnement, c'est devenu la norme. Et il y a aujourd'hui en France plus de produits reconditionnés, puisque en fait, ça touche bien plus que les smartphones. On parle vraiment de tous les outils technologiques qui occupent notre quotidien. Donc, il y en a plus de reconditionnés que de neufs vendus. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment c'est possible ?
C'est un peu comme le marché des voitures, en fait. Hein. C'est ce qu'on espérait faire. Il se vend plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. En 2030, on a réussi à inverser aussi la tendance. Ils vendent plus de smartphones reconditionnés que de smartphones neufs. Et de façon générale, il y a une relation aux produits de seconde vie ou de troisième vie qui a considérablement évolué. On n'est plus dans « j'ai besoin du dernier produit à la mode pour me sentir bien ou valorisé ». J'ai compris que j'avais besoin d'un produit qui fonctionne bien et que s'il pouvait être de seconde ou troisième vie, ça m'allait très bien. Donc, dans ce monde de 2030, oui, la norme est le truc cool, c'est plus d'acheter du neuf. Alors, il faut quand même qu'il y ait des produits neufs qui soient vendus pour qu'il y ait du reconditionné, mais en tout cas, les tendances sont inversées.
Mais justement, on en reparlera après hein, de cet entretien, enfin de cette relation presque un peu du coup biaisée. J'ai envie de t'entendre à ce sujet. Mais là, ouais, concentrons-nous sur le côté cool du reconditionnement et d'ailleurs aussi de ces boutiques qui spécialisent hein, dans le reconditionnement particulièrement vintage. Hein, on voit ressortir des tiroirs, des téléphones des années 2000 pour les personnes qui ont envie d'assumer encore plus cette déconnexion technologique, etc. Hein.
Tout à fait, parce qu'un produit, un téléphone des années 2000, il fonctionne très bien pour téléphoner ou envoyer des téléphones, des SMS, ça fonctionne très bien. Donc on peut aussi envisager une société qui est moins dans les réseaux sociaux permanents et qui a juste besoin de communiquer et on pourrait faire revivre ces vieux téléphones. Nous, l'enjeu aussi pour nous, c'est qu'avec un réseau maintenant établi de plusieurs dizaines d'ateliers boutiques Yes, on a réindustrialisé l'emploi en France. Hein. 2022, le marché est dominé par Backmarket, qui est une plateforme avec des produits qui viennent majoritairement de l'étranger. Là, on a réussi à développer un marché français. Quand il se vend en France plus de produits neufs que de reconditionnés, on peut alimenter le marché national de reconditionnés avec ce qui se vend en France sans avoir à aller chercher ce qui se fait ailleurs. Donc on est très fiers en 2030 d'avoir créé un réseau, d'avoir créé une économie vertueuse. On rachète des produits en France, on les reconditionne en France, on les revend en France, et que les clients maintenant sont dans cette logique de « je veux changer de téléphone, j'ai le droit, ou de produit électronique, j'ai le droit, mais il est évident que je vais le revendre pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera intéressé par ça. » Et c'est aussi mon action de citoyen de considérer que chaque produit que j'ai acheté, je fais en sorte qu'il ait une seconde ou une troisième vie. Et quand je dis chaque produit, ce n'est pas que des produits électroniques, hein, c'est tous les produits qu'on utilise au quotidien.
Vous avez été vraiment aidé hein, par le pouvoir législatif qui a régulé justement la question du reconditionnement, de sa qualité, de son origine. Ça a été un vrai tournant en France. Hein.
Ben ça, c'est fondamental. Ça a été fondamental parce que sans cela, sur un marché non réglementé, on sait qu'il y a beaucoup de dérives et que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a effectivement l'État qui a aidé cette filière de reconditionner, qui a favorisé les entreprises locales qui emploient en France, qui font cette activité en France et qui favorisent le réemploi de produits venant de la France, au détriment de plateformes qui ont fait plus de mal qu'autre chose. Donc effectivement, le soutien de l'État est fondamental sur ce sujet.
Ouais, c'est sûr que du coup, ça a vraiment créé un engouement. Et justement, tu parlais de cet équilibre entre le neuf et le reconditionné. J'aimerais t'entendre à ce propos, puisque si on part du principe qu'en 2030 Glorious, ça y est, le reconditionné fait plus de volume que le neuf, il y a quand même voilà, cette tendance à se nourrir un peu sur cette bête qui est en train de mourir. Quel est l'équilibre qui peut exister et jusqu'à combien de temps hein, quand on sait quand même qu'il y a eu des milliards et des milliards de smartphones qui ont été vendus au cours des dernières décennies, on se dit que le parc de téléphones, il est quand même là à disposition pendant encore assez longtemps. Et puis ensuite, moi, ce que j'aimerais aussi que tu me racontes, c'est comment YesYes est en train de travailler actuellement au coup d'après. Qu'est-ce qui sera voilà, en 2040 glorieuse la nouvelle manière de se lier à la technologie et comment le reconditionnement paraîtra presque un peu désuet.
Alors, oui, on a besoin de neuf pour vendre du reconditionné. Bon, ça, c'est un principe de base. Maintenant, avec le temps, les téléphones durent de plus en plus longtemps. Les nouvelles technologies ne doivent plus seulement permettre d'améliorer les caractéristiques techniques du téléphone, un meilleur processeur, un meilleur appareil photo, quoi que ce soit, mais doivent permettre de rallonger la vie d'un téléphone. L'enjeu, il est là, et c'est ça qui a permis en 2030 d'inverser la tendance. Une voiture, ça ne dure pas 2 ou 3 ans, ça dure 10, 15 ans, et c'est pour ça que le marché de la voiture d'occasion, en 2022, il est supérieur à celui du véhicule neuf.
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avec l'appétence pour ces thématiques éco-citoyennes au cours des années 2020 qui sont allées crescendo, les fabricants ont proposé non plus des innovations à coup de mégapixels ou ce genre de détails, mais au contraire, des téléphones plus durables, plus réparables, mieux sourcés, hein, c'est ça. On a eu une bataille un peu sur la durabilité qui a été faite là.
Donc effectivement, dans les années 2020, les entreprises qui sont aussi toutes dans une démarche environnementale, hein, le proclament, mais elles l'ont exécuté, ont compris que la course technologique n'avait plus lieu d'être et que la vraie raison d'être de ces entreprises était aussi une véritable évolution au profit de l'environnement. Et que plutôt que d'avoir des meilleurs processeurs ou des meilleurs appareils photo qui de toute façon arrivent à une limite, et à un moment donné, un smartphone, tu ne vas pas imprimer des 4x3 avec ton téléphone, hein, avec ton appareil photo. Et donc tout ça était un peu ridicule, et ils se sont réorientés vers comment je fais en sorte que la technologie vienne au service de la durabilité. Et qu'un produit dont on sait qu'il va, donc les caractéristiques techniques seront encore tout à fait valables dans 10 ou 15 ans, ben on fait en sorte que ça dure 10 ou 15 ans. Et c'est ça qui a permis d'inverser cette tendance et qu'aujourd'hui, avec relativement peu de produits neufs vendus tous les ans, on arrive à alimenter un marché du reconditionné de façon durable, dans des volumes beaucoup plus importants que ce qui est dans le neuf. Et ça a été une prise de conscience des entreprises, en plus de celle des consommateurs, mais ça a avant tout été une prise de conscience des entreprises qui ont dû adapter leur développement à ces nouvelles considérations.
Oui, donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, les téléphones étant plus résistants, on a aussi besoin de moins les changer. Et donc, le volume beaucoup plus limité du neuf permet aujourd'hui au reconditionnement de continuer à tenir. Et vous, YesYes,
maintenant que vous avez cette présence assurée et assumée sur le territoire, ces milliers de personnes que vous employez, que vous avez formées à ces techniques de reconditionnement, comment vous restez précurseur de ces domaines? Est-ce que vous avez développé, je ne sais pas moi, plutôt de la location pour aller au-delà de l'achat? Est-ce que les boutiques réparation sont aussi des lieux où on a des ateliers d'auto-réparation ou peut-être d'apprentissage de l'utilisation de la technologie pour justement prévenir sa surutilisation et tous les biais qu'on a vus arriver hein, au fur et à mesure? Comment vous avez évolué, vous, pour rester dans le coup, pour rester en avance même hein, par rapport à ces sujets?
Alors, il y a eu deux types d'évolutions, puisqu'on a commencé par le smartphone, et puis après, rapidement, en 2022, on est passé sur des consoles de jeux, des iPads, des tablettes, des ordinateurs. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que cette expertise qu'on avait, elle pouvait s'appliquer à beaucoup de produits techniques dans plein de domaines, notamment quelque chose qui s'est beaucoup développé, la mobilité électrique, hein, les vélos électriques, les trottinettes électriques, même chose, il y a une batterie dedans. On s'est mis aussi à reconditionner et à vendre des produits électroniques au sens large, mais pour lesquels il y avait un besoin à un moment donné d'un contrôle technique pour lui redonner une deuxième ou une troisième vie. Et donc on a cette expertise-là et on est reconnu comme étant les experts de tous les produits électroniques quels qu'ils soient. Tous les produits avec une batterie ou je ne sais quoi, mais en tout cas qui nécessitent un contrôle technique. Donc la première chose, c'est qu'on a étendu cette expertise dans des tas de produits et qu'on est reconnu pour ça. La deuxième chose, c'est ce que tu soulignais, c'est qu'on a fait évoluer aussi les mentalités sur... l'acte de possession, hein, et on est rentré dans cette économie de la fonctionnalité. J'ai pas besoin de posséder mon smartphone, il n'a pas besoin d'être à moi, mais en revanche, je peux le louer pour une certaine durée, et puis après, je vais en avoir un autre, et puis en fait, peu importe, je vais changer quand je veux, ça sera toujours un reconditionné, et puis le mien, je vais le rendre naturellement, il ne va pas rester traîné dans un tiroir parce que je l'ai acheté et je me suis dit, il est à moi, je le garde. Non, c'est quelque chose de très naturel. Les Français ont appris à ne pas posséder un produit, à en avoir l'usage et donc naturellement de le redonner quand ils ne s'en servaient pas. Et puis comme tu l'as très justement souligné, l'enjeu ça a été aussi de développer la prise de conscience qu'un téléphone qui a un écran cassé ou qui a une batterie qui est vieillissante n'est pas un téléphone mort. Et qu'on peut soit le faire réparer, mais ce qu'on a développé dans nos ateliers, ce sont des espaces alors de réparation, mais comment dire, encadrés, parce qu'il y a quand même quelques risques, notamment avec la batterie, à faire les choses soi-même. Mais en tout cas, on a fait des ateliers où on prend rendez-vous avec nos responsables techniques pour voir comment changer un écran, alors acheter la pièce détachée, qu'on vend directement, et ensuite être accompagné pour le faire soi-même et aussi avoir la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc on est passé dans une logique du jetable, hein, j'achète un téléphone, je m'en sers plus, je le mets dans un tiroir, alors c'est pas la poubelle mais c'est tout comme, à une logique de je ne possède pas forcément, quand je n'utilise plus, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser, et quand c'est en panne, je fais réparer ou je répare moi-même. Et cette prise de conscience vertueuse qui s'est développée au cours des 10 dernières années.
Et l'académie ISIS, elle a fait des petits, et elle en est où?
L'académie ISIS, c'est un succès et beaucoup de jeunes adorent venir chez nous parce que la technique, la technologie, ça a toujours fait rêver les jeunes. Comme je te le disais tout à l'heure, quand on était dans les années, début des années 2020, 2022, on aimait former des jeunes qui avaient démonté des téléphones sans savoir les remonter. Aujourd'hui, c'est un truc qui fait envie de se dire, moi j'ai envie d'être formé à ça, ça m'intéresse, parce que c'est chouette d'ouvrir un téléphone, de regarder comment c'est fait, et puis surtout c'est génial d'avoir eu une action d'avoir apporté quelque chose et de me dire bah, ce téléphone que j'ai réparé, il va servir encore 3, 4, 5 ans, 10 ans et j'ai été utile à quelque chose de très concret. Et donc ça s'est véritablement développé et notre académie Yassiès est devenue référente aujourd'hui en termes de réemploi et d'expertise du reconditionné.
Avec le métier de réparateur en fait qui a été complètement remis sur le devant de la scène, hein. C'était quelque chose qui était assez courant, hein. Il y a plusieurs décennies en arrière, qui a disparu parce que en fait on avait des produits neufs qui étaient presque moins chers et même beaucoup moins chers que le service de la réparation. Et aujourd'hui c'est redevenu ancré dans notre vie, dans notre ville, le métier de réparateur.
Oui, et puis nous on avait déjà redonné en 2022 avec l'ouverture de notre premier atelier boutique une image positive du réparateur. C'est le réparateur, c'est celui qui est derrière dans l'usine, on ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est pas très valorisant. Nous on l'avait placé au cœur de notre boutique et c'était un peu les stars entre guillemets de la boutique. Tu les vois réparer les téléphones, ce sont les acteurs du reconditionné. Sans eux ça n'existe pas. Et donc on l'avait déjà initié à l'époque pour redonner de la valeur aussi à un métier qui n'en avait pas forcément, en tout cas qui ne semblait pas en avoir. Et c'est ce qui est important dans la société qu'on a créée en 2030, c'est qu'on redonne de la valeur à des choses simples, mais fondamentales. Et le travail manuel, c'en est un, hein, de réparer un téléphone, c'est quelque chose de très noble. Et on était parti au début des années 2020 dans des choses très superficielles. Il fallait être influenceur ou influenceuse à Dubaï pour avoir réussi dans la vie. Non, en fait, heureusement, les choses ont évolué et on est revenu à des choses beaucoup plus simples, basiques, mais surtout beaucoup plus fortes.
Et toi, David, en 2030, tu fais quoi en 2030 Glorieuse? J'ai l'impression que tu n'es pas influenceur à Dubaï. Hein.
Non, on ne sait jamais, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance, mais tu sais, tout comme j'avais dit, je ne créerai jamais ma société, je l'ai fait. Mais bon, là, en l'occurrence, je pense que ça a peu de chance d'arriver. Non, moi, je pense que je... En 2030, tu vois, j'ai pas loin de 60 ans. Je regarde ça avec un œil bienveillant du parcours que j'ai réalisé, de cette fameuse part dont on se parle, et puis surtout cette fierté d'avoir contribué à quelque chose de positif, et surtout quelque chose qui peut continuer. Ensuite, en ayant lancé le mouvement et ensuite qui peut continuer très facilement. Donc, ce que je fais en 2030, c'est plus du domaine de l'accompagnement que de la création. Hein. Ça, j'ai passé l'âge, mais je suis toujours très présent parce que j'ai besoin de porter encore toutes ces valeurs et toute cette action.
On revient en 2022, la route, hein, elle est longue encore vers ces 2030 glorieuses, à la fois c'est demain. Pour les personnes qui nous ont écoutés, David, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme pas supplémentaire pour les faire advenir ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble là?
Moi j'ai un message qui est très simple, c'est qu'il faut être acteur. On ne peut pas rêver de quelque chose de mieux si on n'est pas acteur au quotidien. Moi je l'ai vécu en créant ma société. Et donc si chacun rêve de quelque chose de nouveau, je vais encore reprendre ce que tu dis très bien, ça commence par moi, donc dès demain soyez acteur de ça et avancez avec la certitude que si vous êtes dans le juste, dans ce que vous considérez comme étant juste, il y a forcément des gens autour de vous qui pensent la même chose et qui vont s'associer à vous, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner pour ça, et qu'en unissant toutes ces forces là on y arrive forcément à un moment donné. La création et la chose la plus merveilleuse qui soit, créer quelque chose, c'est à tous les niveaux, hein, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit, parce qu'elle nous met vraiment dans cette situation d'acteur. Et puis à titre personnel, c'est ça qui nous donne la confiance en nous qu'on cherche en permanence. Il n'y a rien de plus valorisant de se dire, là, il n'y avait rien, j'ai agi, et il y a quelque chose, et il y a quelque chose qui me plaît, parce que ça correspond à mes valeurs. Donc si je n'ai qu'un mot à dire, c'est soyez dans l'action et soyez acteur. Et dans la création, c'est ce qu'il y a de mieux.
Merci David.
Merci Julien.
Ça y est, cet épisode avec David Mignot vient de se terminer. Je suis heureux d'avoir pu reparler un peu de technologie, surtout en ce moment avec tout ce qu'on voit, hein, de temps d'écran, d'objets technologiques qui envahissent nos vies et de l'empreinte écologique de ces objets qu'on doit forcément drastiquement réduire et au moins, pour commencer, révéler et questionner. Et donc avec l'expérience ISIS, on voit qu'il y a la possibilité de la réduire, cette empreinte, mais en plus de faire de cette réduction l'occasion de créer des emplois et de redonner ses lettres de noblesse au métier manuel, comme l'a dit très justement David, avec en plus la possibilité de raccrocher des jeunes qui sont éloignés de ces considérations, avec peut-être un parcours professionnel au début un peu chaotique et qui peuvent très vite se former, avoir un métier enthousiasmant puisqu'ils contribuent à une vraie question qui est un enjeu, hein, de notre époque et qui en plus permet une évolution. Donc moi ça me donne envie, hein, de les voir émerger ces magasins, boutiques comme les appelait David, mais aussi boutiques, centres de réparation qui seraient un peu dans tous les cœurs de ville et qui montreraient, voilà, les entrailles de nos objets technologiques, du processus de reconditionnement qui aujourd'hui malheureusement est encore trop peu encadré, hein, même pas du tout comme l'a dit David, et qui mérite lui, voilà, de vraiment évoluer dans nos mentalités, mais aussi dans la loi pour devenir la norme dès demain et faire qu'en 2030 glorieuse, l'essentiel des produits qu'on achètera seront cette fois vraiment reconditionnés avec une deuxième, troisième, quatrième vie. Encore un épisode passionnant, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à laisser une petite note, hein, et un commentaire, d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux ou dans votre appli de podcast, ça permet de donner à d'autres personnes l'occasion de découvrir les podcasts, et puis moi surtout, c'est toujours un plaisir d'entendre vos retours, donc n'hésitez pas à m'écrire pour me partager l'impact de ces podcasts dans vos vies et sur vos réflexions, et puis bon, on continue, hein. Je vous dis à 2 semaines pour un nouvel épisode, allez salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !